Chapitre 27. Laissant Renda sur Bay derrière eux, Nietzsche et ses compagnons longèrent le fleuve en direction des terres, vers les ports, les villes minières et les fermes décrites par Thaddeus. Dans ces lieux, quelqu'un saurait bien quelque chose sur Colladère. De temps en temps, des barges descendaient le fleuve, transportant des fermiers ou des marchands en route pour Renda Bay avec leurs produits. Les pilotes de ces embarcations, armés de longues perches pour les diriger, saluaient parfois les trois inconnus qui avançaient le long de la berge. Après le naufrage et les autres malheurs, Nietzsche avait le sentiment de prendre un nouveau départ. Très à l'aise dans sa robe noire nettoyée et reprisée, elle se réjouissait de voir Nathan fier de porter la chemise de Philippe. Bannon aussi avait eu droit à une nouvelle tenue. Au fil du voyage, le jeune homme semblait retrouver son insouciance et sa fraîcheur. Mais son sourire et son optimisme, Nietzsche n'en doutait plus, n'étaient que des leurres. Désormais, elle voyait clair dans son jeu. Au moins, il ne la courtisait plus. Une folie dont elle lui avait fait passer le goût. Mais il ne la fuyait pas pour autant et engageait même volontiers la conversation. « Magicienne, j'ai pensé à quelque chose. Comme les prophéties, les vœux se réalisent parfois d'une façon surprenante. Le tien s'est réalisé en tout cas. »«
Quel vœu ?» demanda Nietzsche, méfiante.
« La perle souhait que je t'ai offerte sur le randonneur des vagues, tu te souviens ?»«
Je l'ai jetée par-dessus bord pour apaiser la reine des Selkas. »
Pense à la série d'événements. Tu as fait ton vœu, nous avons cinglé vers le sud, les Selkas nous ont attaqués, puis il y a eu le naufrage. Mais nous avons trouvé la pyramide qui confirmait la prédiction de la voyante. Ensuite, nous sommes allés à Renda-sur-Bay, où nous avons combattu les Norukai. Puis le nouveau maire nous a dit ce qu'il savait sur Colladère. N'est-ce pas lumineux? C'était bien ça ton vœu, trouver Colladère.
Ta logique est aussi rectiligne que la trajectoire d'un ivrogne sur une colline verglacée pendant une tempête de neige,
lâcha Nietzsche. Mes vœux, je fais en sorte qu'ils se réalisent, et ma chance, je me la fabrique. Aucune magie Selka n'influence le cours des choses pour m'emmener là où je dois précisément être. Quoi qu'il soit arrivé, nous aurions trouvé notre chemin.
Les souhaits et les vœux sont dangereux, intervint Nathan,
exactement comme les prophéties. Ils conduisent souvent à des résultats inattendus.
Dans ce cas, je me garderai désormais de tout souhait frivole,
lâcha Nietzsche.
C'est moi qui détermine ma propre vie.
Au fil des jours, les voyageurs trouvèrent plusieurs petits villages et deux ou trois plus importants. Tout en collectant des informations, Nathan et Nietzsche éclairaient la lanterne des gens sur l'Empire d'Aran et les nouvelles lois de Richard. Dans ces agglomérations isolées, on les écouta avec intérêt. Mais de si lointaines instances ne paraissaient pas avoir de véritable influence sur la vie quotidienne. Consciencieux, Nathan notait le nom de chaque village sur sa carte, puis le trio repartait. Un jour, alors qu'il s'était présenté comme le sorcier Nathan Rall, les villageois lui demandèrent une démonstration de ses pouvoirs. Une situation embarrassante.
« Mes amis, la magie n'est pas un jeu et encore moins un spectacle !»
Entendant ça, Nietzsche ne cacha pas son scepticisme. Quand il disposait encore de son don, Nathan n'avait jamais reculé devant ce genre de manifestation. Au contraire, il adorait frimer. Ayant perdu ses moyens, voilà qu'il jouait les modestes. Dans le même village, ayant appris que Nietzsche était une magicienne, les enfants la harcelèrent pour qu'elle leur montre des trucs. Quand elle finit par s'énerver, ils lui lâchèrent enfin les basques. Pour les consoler, Nathan leur proposa une démonstration d'escrime, mais il fit un bide retentissant. Au sortir de ce village, Nathan prit une décision.
« Plus question de mentionner ma magie. Pas avant d'être redevenu entier, en tout cas. Après Colladère, on verra. Pour l'instant, je n'ose pas essayer d'utiliser mon don. »«
Tu devrais insister, » conseilla Nietzsche. « Tu ne sens plus ton Han. Si tu as perdu ton don, le retrouver devrait être possible. »
« Je pourrais aussi faire un désastre. Je ne t'ai pas parlé de ce qui est arrivé à Renda-sur-Bay quand j'ai tenté de guérir un blessé. »
Le fleuve se séparant en deux, les trois compagnons avaient décidé de remonter la branche nord.
« Je t'ai vu aider des villageois, » dit Nietzsche.
« Mais tu n'as pas tout vu. »
Nathan chassa une mouche qui voltait devant son nez.
« Bannon a assisté à ça. Depuis, nous n'en avons pas reparlé. »
Entendant son nom, le jeune homme se mêla à la conversation.
J'ai vu tant de choses ce soir-là. À la fin, j'avais l'impression que mes yeux pleins de sang ne distinguaient plus rien. Pour être honnête, j'ai presque tout oublié.
Un type avait pris une lance dans la poitrine, dit Nathan. Les femmes qui s'occupaient de lui n'avaient plus aucun espoir. Comme je sentais ma magie, j'ai voulu prouver que j'étais redevenu entier. Magicienne, je t'ai vu sauver le village avec ton don et j'enrageais de ne pas avoir pu t'aider. M'emparant d'un filament de pouvoir, j'ai cru possible de...
Le sorcier se tut, faisant mine d'être essoufflé alors que la piste était parfaitement plate. Mais son récit semblait si douloureux que marcher et parler en même temps devenait difficile.
J'ai voulu guérir ce malheureux. Mais en moi, trop de choses avaient changé. Par les esprits du bien, je ne comprends plus mon propre don. J'ai cru toucher mon Han, et avec le peu de pouvoir que j'y ai puisé, Il aurait dû s'agir de magie additive. Avec, j'aurais dû rétablir la circulation, soigner les poumons, réparer les tissus.
Des larmes perlèrent aux yeux du vieil homme. Nietzsche et Bannon s'arrêtèrent de marcher en même temps que lui.
Je voulais le guérir, mais ma magie a fait le contraire. Au lieu de fermer ses plaies, mon sort... Ce pauvre homme a explosé, déchiqueté de l'intérieur, alors que je cherchais à le sauver.
Stupéfié, Bannon regarda le sorcier.
Je me souviens maintenant. Je regardais, mais je n'ai rien vu ou pas voulu croire ce que je voyais.
Nietzsche essaya de comprendre ce que Nathan voulait dire.
Ta magie est revenue, mais elle a fait l'inverse de ce que tu lui ordonnais?
Peut-être pas exactement l'inverse. Disons qu'elle s'est déchaînée. Une force incontrôlable. Mon Han semblait vouloir me combattre. Et ce pauvre homme...
Nathan se tourna vers Nietzsche.
Tu te rends compte, magicienne? Si j'avais jeté ce genre de sort pendant le combat contre les Norukai, Renda Surbe aurait pu être rayé de la carte. Et Bannon et toi avec.
En ce moment, tu sens ton don? Demanda Nietzsche.
Peut-être, je ne sais pas. Comme tu t'en doutes, je n'ai aucune envie d'essayer. Comment prendre un tel risque? M'exercer est hors de question. Imagine que j'essaie de générer une flamme de paume et que s'affiche le feu à la forêt. Ces gosses qui voulaient une démonstration, j'aurais pu les tuer tous. Une magie incontrôlable, c'est pire que pas de magie du tout.
Tout dépend des circonstances, modéra Nietzsche. Si nous étions poursuivis par une horde de monstres, un feu de forêt, même involontaire, pourrait être très utile.
Comme d'habitude, Bannon tenta de regonfler le moral de ses amis.
Clairement, la solution est de trouver Colader aussi vite que possible. Après, notre sorcier sera de retour.
Oui, fiston, marmonna Nathan. C'est aussi simple que ça.
Morose, il repartit à grandes enjambées. 3 jours plus tard, en traversant une forêt où les habitations se faisaient plus que rares, les 3 voyageurs croisèrent une large route impériale qui s'enfonçait dans une grande vallée. Comme s'il s'agissait d'une lance propulsée sur le Nouveau Monde par Jagang, cette voie conduisait au nord. Du sommet d'une colline, Nietzsche, Nathan et Bannon observèrent la route abandonnée, construite par quelques grandes marées en effet, mais pas dans un passé récent.
« Quand tu étais la maîtresse de la mort, » demanda le sorcier à la jeune femme, « une de tes expéditions est venue si loin au sud ?»«
Non, pour Jagang, ces terres isolées ne valaient pas le coup. Pourtant, grâce à ces antiques cartes, nous savions qu'on trouvait des carrefours commerciaux et des mégalopoles au-delà de la côte fantôme. »«
Cette route a donc été construite par un autre empereur. Dans le passé de l'Ancien Monde, ils sont légions. » « As-tu entendu parler de Kurgan ? C'est lui qu'on surnommait le Croque de Fer. »
Alors qu'il s'approchait de la grande route vide, Nietzsche fronça les sourcils.
« Au palais des prophètes, j'ai étudié l'histoire, mais ce nom ne me dit rien. Ce Croque de Fer a-t-il joué un grand rôle ?»«
Moi, j'ai étudié l'histoire pendant un millénaire, chère magicienne. Beaucoup de dirigeants ont prétendu y avoir joué un grand rôle, c'est vrai. » Mais Kurgan est sans doute l'empereur le plus célèbre depuis la fin des Grandes Guerres, si on en croit ses chroniques en tout cas. Je m'étonne que tu ne le connaisses pas.
Jagang préférait que je l'aide à faire l'histoire, pas à la comprendre.
Et l'histoire, elle l'avait faite en tuant l'empereur, discrètement, sans spectacle, comme Richard le lui avait demandé.
Un grand voyage, ça laisse du temps pour les récits.
Nathan s'engagea sur la large voie impériale qui conduisait dans la direction qu'il croyait la bonne.
Il y a 15 siècles, Kourgan a conquis la plus grande partie de l'ancien monde et des terres du sud.
Nathan fit un clin d'œil à Bannon qui marchait d'un pas martial sur la voie pavée.
Au fond, ça ne fait pas si longtemps que ça. 5 siècles seulement avant ma naissance.
500 ans?
S'écria Bannon. Pour lui, 10 éternités n'auraient pas paru plus longues.
Kourgan était brutal et sans pitié, mais il devait son surnom, Croque de Fer, à une bizarrerie. La perte de sa canine gauche. On ne sait trop pourquoi. Il l'avait fait remplacer par une longue pointe en fer. Ça devait le rendre effrayant, mais ne me demandez pas comment il faisait pour manger avec ça. En plus, il devait remplacer la pointe régulièrement à cause de la rouille.
Dit comme ça, ce n'est pas très angoissant, fit remarquer Nietzsche.
Mais ce type était puissant et cruel, crois-moi. Les armées de Croque de Fer conquéraient pays après pays. Enrôlant de force tous les jeunes gens du royaume vaincu, elles grossissaient sans cesse, malgré de lourdes pertes, un mouvement perpétuel. Mais, comme notre cher Richard est en train de le découvrir, si conquérir est une chose, administrer en est une autre. Et Kourgan avait une faiblesse qui ne pardonne pas, croire les flatteurs qui entourent toujours un dirigeant. Bref, il se prenait pour un génie alors que l'âme de son empire, c'était le général Outros, le chef suprême de ses troupes.
Même un empereur a besoin d'officiers doués pour conquérir et garder tant de royaumes, confirma Nietzsche.
Outros, un grand stratège, volait de victoire en victoire. C'est lui qui a conquis l'ancien monde pour son maître.
En remontant la confortable route impériale, Nathan jetait de fréquents coups d'œil vers l'est la probable direction de Colader.
Quand Outros ne fut plus là, Croque de Fer se retrouva le bec dans l'eau.
Qu'est-il arrivé à Outros?
Demanda Bannon.
Une défaite, un assassinat?
Curieusement, ce n'est pas établi, mais j'ai mon idée. Cette histoire est beaucoup plus compliquée qu'une énumération de campagne militaire, parce que Kourgan avait épousé la reine d'un des plus grands pays tombés sous sa coupe. Une beauté qui se nommait Majel, une magicienne selon certaines sources, car son charme était vraiment ensorcelant.
Nathan fit un clin d'œil à Nietzsche.
Comme le tien, si tu vois ce que je veux dire.
La magicienne foudroya l'insolent du regard.
Comme de juste, Outros fut fasciné, et Majel le trouvait plutôt bel homme, sans parler de son courage et de sa force. À coup sûr, il devait être un meilleur compagnon que Croque de Fer, sûrement beaucoup moins séduisant que sa propagande l'affirmait. Au fond, il n'y a peut-être rien de magique là-dedans. Outros et Majel ont pu tomber amoureux, tout simplement. Quoi qu'il en soit, il est clair pour moi et pour nombre d'historiens que le général, une fois le monde conquis, entendait renverser Kourgan et épouser Majel.
Et qu'est-ce qui n'a pas marché?
Voulut savoir Bannon. Nathan s'arrêta près d'une borne qui lui arrivait à l'épaule. Un indicateur de distance, bien sûr.
Hélas, les chiffres étaient effacés depuis longtemps.
Sortant son livre de vie, il consulta sa carte, regarda en direction de l'est et tenta de s'orienter. Jusque-là, aucune borne ne portait sur son socle la prophétie de Rouge, et Nietzsche en était presque soulagé.
Un jour, Outros partit à la tête de 900 000 hommes, la totalité des forces impériales, avec pour objectif la conquête d'Ildakar, une fabuleuse cité. Et il disparut durant cette campagne, oui, avec son armée entière. On pense que tous ces hommes ont déserté, jusqu'au dernier, voire qu'ils se sont joints aux troupes d'Ildakar. Soudain privé d'armée, Kourgan mesura enfin sa faiblesse. En même temps, il découvrit des preuves de la liaison entre Majel et Outros. Foudrage, il fit enchaîner sa femme, nue comme un ver, et les membres en croix, au centre de la grande place de sa capitale. Forçant son peuple à regarder, il se servit d'une dague d'obsidienne pour écorcher le doux visage de la traîtresse. En épargnant les yeux, pour qu'elle puisse le voir infliger le même sort au reste de son corps.
les nucléant enfin. Il s'assura qu'elle était encore vivante et jeta sur sa chair à vif des centaines de fourmis rouges.
Bannon devint verdâtre. Certaine que Jagang n'aurait pas désavoué le procédé, Nietzsche hocha gravement la tête.
« Les empereurs ont une tendance à l'excès, » dit-elle.
Croix de fer pensait terroriser ses sujets. En réalité, il les dégoûta, parce qu'ils adoraient leur impératrice. Indignés, ils se soulevèrent et renversèrent leurs dirigeants. Sans armée, ils n'avaient plus pour le défendre qu'une poignée de gardes impériaux tout aussi révulsés par la mort de Majel. Après l'avoir tué, les émeutiers traînèrent le cadavre de Kourgan dans les rues, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de chair sur ses os. Pour parachever le travail, ils pendirent la dépouille au sommet d'une tour et la confièrent aux bons soins des charognards.
« C'est ce qui doit arriver au tyran, » dit Nietzsche. « Jagang a fini dans une fosse commune sans rien pour l'identifier. »
Nathan attendit quelques instants avant de livrer la chute de son histoire.
« Bien entendu, les gens choisirent un nouvel empereur, aussi cruel et tyrannique que le précédent. La preuve que certaines personnes ne comprennent jamais rien à rien. »